Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Riverwood Podcast. Je suis le frère Alain Mizel, fondateur des ministères Riverwood International, ici à Laval, au Québec, Canada. Nous sommes pratiquement à la fin de notre série d'enseignements sur le sujet « Connaître Dieu ». Alors, nos podcasts peuvent être trouvés sur www.riverwood.podomatic.com ou en souscrivant à iTunes, Twitter ou Facebook et sont sponsorisés par les ministères Riverwood International, ici à Laval, au Québec, Canada. Si vous nous suivez un peu partout dans le monde, nous serons contents de savoir que ces messages raffermissent votre foi et vous permettent de grandir dans le Seigneur. Alors, envoyez-nous vos feedbacks quand vous pouvez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le sujet de cette semaine est sur justice. Justice, un caractère moral de Dieu. Justice, un caractère moral de Dieu. Je tiens à vous rappeler de lire un très bon livre écrit par le docteur Richard Booker, intitulé en anglais « What Everyone Needs to Know About God », ce que chacun doit connaître à propos de Dieu. Alors, certains commentaires des enseignements qui sont faits donc sur ce site sont tirés de cet excellent livre écrit par le docteur Richard Booker. Richard, c'est un enseignant de classe mondiale sur les racines hébraïques de l'Église chrétienne et il est l'auteur du best-seller qui est appelé en anglais « The Miracle of the Scarlet Thread » qui est un excellent livre également du docteur Richard Booker. Richard et sa femme Peggy dirigent l'Institut des études hébraïques chrétiennes à Woodlands au Texas et ses enseignements ont eu un impact profond dans ma vie et dans mon ministère. Alors, je l'aime comme un père spirituel. Dans la poursuite de notre connaissance de Dieu, nous devons comprendre que la justice est un de ses traits de caractère majeurs. Du point de vue humain, il n'est pas un point facile d'accepter qu'il y a un Dieu juste assis dans les cieux qui règne avec justice sur la terre. Parce que, en regardant les choses par la petite fenêtre qu'est notre vie, on a l'impression que les gens mauvais et injustes se tirent toujours d'affaire et les bons sont punis sans pitié ni vergogne. Qu'est-ce qui peut justifier après tout la tuerie de 6 millions de juifs par Hitler et ses nazis tout simplement parce qu'ils étaient juifs? Et comment un Dieu juste peut-il rester indifférent à une telle injustice et ne pas l'éradiquer? Alors, mais en fait, quand nous examinons attentivement les choses, nous nous apercevons que Dieu exerce effectivement sa justice avec compassion et amour sur la terre. Voici ce que le livre de Deutéronome dit au chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, versets 3 à 4. « Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait. » Car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle, dépourvu d'injustice, il est juste et droit. Dieu est juste et droit, ce qu'il accomplit est parfait, tout ce que Dieu accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes, toutes les voies de Dieu sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, alléluia. Le mot hébreu traduit en grec qui signifie juste, c'est le mot tzedek. Tzedek, T-Z-E-D-E-K, ou tzadik. Tzedek ou tzadik, c'est le mot hébreu qui est traduit en grec et qui signifie juste. Et c'est à partir de ce mot tzedek que nous avons la racine ou le mot, le nom de Dieu, Jéhovah Tzidkenu. Jéhovah Tzidkenu, qui veut simplement dire Dieu notre justice. Alléluia. Alors, la justice de Dieu est le fait que Dieu est juste dans le fait que Dieu nous donne exactement, parfaitement, ce que nous méritons. Parce qu'il est le modèle, le standard de ce qui est juste. Dieu nous donne exactement, parfaitement, ce que nous méritons. Parce qu'il est le modèle, le standard de ce qui est juste. Ce standard de justice et justification se résume dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Voici ce que le psaume 92 dit. Psaume 92, verset 15. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Il n'y a aucune injustice en Dieu. Alléluia. C'est bon de savoir qu'il n'y a aucune injustice en Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a point d'injustice en Dieu. D'autre part, la Bible nous dit également, dans Romains au chapitre 3, verset 10, que dans toute l'humanité, il n'y a personne, il n'y a aucun humain qui ne soit juste. Il n'y a aucun, personne, aucun. Alors, vous pouvez paraître juste et bon quand vous vous comparez à d'autres personnes méchantes ou de mauvais êtres humains. Certaines personnes pensent d'ailleurs que le Dalai Lama est juste. Mais quand on compare le Dalai Lama et nous-mêmes devant Dieu, eh bien, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas vivre par rapport au standard, par rapport au niveau de Dieu, par rapport au niveau de sainteté de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 63 que notre auto-justification, notre justification est comme un vêtement souillé devant Dieu. Notre justification est comme un vêtement souillé devant Dieu, comme les feuilles de figuier. Vous vous rappelez, Adam et Ève, quand ils sont tombés dans le jardin d'Éden, il y a une chose qu'ils ont fait, ils ont pris les feuilles de figuier pour se couvrir. C'est cela que représente l'auto-justification devant Dieu. C'est comme des vêtements souillés devant Dieu. Alléluia. Voici ce que Ésaïe 64 dit. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Alors, il y a quatre voies qui émanent de la justice de Dieu, de la justice divine. Il y a quatre voies, quatre conséquences que nous devons connaître. Premièrement, les voies de Dieu sont justes et droites. Deuxièmement, les lois de Dieu sont justes et droites. Troisièmement, les jugements de Dieu sont justes et droits. Quatrièmement, la colère de Dieu est juste. Les voies de Dieu sont justes et droites parce que la justice et la droiture sont sa nature. La justice et la droiture sont la nature de Dieu. C'est pour ça que ces voies sont justes et droites. Et Dieu ne peut pas régner autrement sur nous que par la justice et la droiture. Alléluia. Ses interactions avec l'homme sont parfaitement justes et égales à ce que nous méritons. Les interactions de Dieu avec nous sont parfaitement justes et égales à ce que nous méritons. Regardez ce que le prophète Osée dit dans Osée 14 au verset 9. Osée 14 au verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Eh bien, ces paroles viennent du prophète Osée. Le prophète Osée à qui Dieu donna comme femme une femme appelée Gomer. C'était une prostituée qui lui fera des enfants illégitimes et qui va éventuellement le quitter pour un autre homme. Vous vous rendez compte par quoi le prophète est passé? Et c'est ce prophète qui dit que les voies de l'Éternel sont droites et elles sont justes. Et le juste y marcheront, mais les rebelles tomberont. Ce prophète dont la femme prostituée l'a quitté pour un autre homme, et malgré tout, Osée alla à la recherche de sa femme prostituée, motivé par cet amour divin indestructible, cet amour qui supporte tout, qui croit tout, espère toute chose, cet amour qui n'a pas de fin, cette sorte d'amour divin, alléluia. Et le prophète Osée retrouva sa femme en lambeaux, souillée, tordue, malade, sale, destituée, enchaînée sur une estrade de vente aux enchères, dans un sale marché d'esclaves. Elle était devenue qu'une ombre répulsive de la femme qu'elle fut, naguère. Malgré tout, le prophète Osée va racheter sa femme et la ramener à la maison. Alléluia. Quand David est tombé dans le péché d'adultère devant Dieu avec Bathsheba, la justice de Dieu était telle que l'enfant qui découlait de cette union devait mourir, même s'il était innocent dans cette affaire. Mais le pardon de Dieu avait été offert à David qui en avait besoin. Lui qui languait, lui qui recherchait ardemment la présence de Dieu. Et David a mis tout cela dans les mots suivants. Voici ce que David dit au psaume 145, verset 17. « Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Alléluia. Jamais nous ne comprendrions toujours pourquoi et comment Dieu exerce sa justice. Mais nous pouvons être rassurés par une chose. Quel que soit ce que Dieu fait, il le fait parce que c'est juste et il le fait avec droiture. Alléluia. Les lois de Dieu sont justes et droites. Deuxièmement, les lois de Dieu sont justes et droites. Eh bien, le mot hébreu qui était traduit dans le Nouveau Testament en grec par le mot nomos ou loi, c'est le mot hébreu Torah. Le mot Torah signifie en grec nomos et ça avait été traduit comme loi. Alors, les Grecs à l'époque n'avaient pas un autre mot pour Torah excepté le mot nomos, N-O-M-O-S. Ça voulait dire loi. En fait, dans la pensée hébreuse, l'objectif primaire de la Torah, du mot Torah, est d'instruire l'humanité à la manière d'atteindre la cible de la vie, contrairement au péché qui signifie rater la cible de la vie. Torah est le féminin du mot racine Yara. Yara, Y-A-R-A-H. Et le mot racine Yara signifie lancer ou tirer, apprendre à tirer et atteindre la cible dans la vie. C'est cela, la Torah. La Torah signifie démontrer, montrer, guider, diriger, enseigner, instruire, ou toutes sortes de mots similaires. Enseigner, diriger, guider, instruire. Alléluia. Mais parce que la langue grecque n'avait qu'un seul mot, le mot nomos, pour définir la loi, alors que l'on parle de la loi de Dieu, la loi du péché, la loi de l'esprit de vie ou la loi de Christ, il est souvent impossible de savoir de quelle loi Paul parle dans le Nouveau Testament. Alors, dans les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Hébreux, Paul parlait aux nouveaux croyants, non-juifs, et la manière dont ils devaient se tenir devant les juifs légalistes. En fait, ces épîtres étaient écrits à des non-juifs, des nouvelles personnes, des gentils, qui arrivaient dans l'église, qui était complètement une église juive. Et à ce moment-là, ils faisaient face à des juifs qui étaient dans l'église, qui leur disaient non, pour que vous soyez sauvés, vous devrez vivre par rapport aux coutumes juives. Et c'est à ces chrétiens-là que Paul avait écrit les épîtres, pour leur expliquer qu'ils n'avaient pas besoin d'être judaïsés, donc d'être circoncis, de suivre à la lettre les coutumes juives, et ainsi de suite, pour être sauvés. Paul était en train de leur dire qu'il n'était pas nécessaire qu'ils pratiquent les traditions juives pour être sauvés. En réalité, Dieu n'avait pas donné la loi aux Hébreux pour qu'ils en soient sauvés. Quiconque a été sauvé ne l'a été que par la grâce et la foi dans le sang du sacrifice substitutionnel de l'innocent contre le péché. C'est cela le principe du salut. Dans l'Ancien Testament, ils attendaient avec anticipation et regardaient en avant vers l'arrivée du Messie par le sang des brebis et des boucs. S'ils avaient cru dans leur cœur et mis en pratique ce qu'ils croyaient dans leur vie, ils étaient sauvés par la grâce et la foi dans le sang du sacrifice substitutionnel innocent des animaux. Nous croyants du Nouveau Testament sommes sauvés de la même façon, mais en regardant en arrière à la réalité de l'accomplissement par le sang du sacrifice substitutionnel de l'innocent en la personne du Messie Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, le frère Richard Booker le dit d'ailleurs dans son livre. Il dit, Dieu voulait que son caractère juste et droit soit vu à travers son peuple qui vivrait selon ses lois justes et droites. Psaume 19, 7 à 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alléluia. La loi est notre pédagogue, notre enseignant. Elle nous montre que nous sommes coupables devant Dieu et nous mène à Jésus-Christ, notre Messie justificateur, par la repentance. Alléluia. Voici ce que Galates dit à propos de la loi. Galates au chapitre 3, versets 21 à 24. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là! Voici ce que répond Paul. Loin de là! La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là! S'il lui a été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'écriture a tout renforcé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Alléluia. Finalement, les jugements de Dieu sont justes et droits. En effet, la justice et la droiture de Dieu exigent qu'il nous juge, et il nous juge toujours avec justice, en accord avec sa nature, et notamment sa bonté. Le roi David a eu le même problème que nous croyons du Nouveau Testament avant aujourd'hui, en questionnant le jugement de Dieu, quand le mal a l'air de prévaloir sur le bien. Les méchants qui semblent prospérer, quand les justes souffrent. Voici ce que David disait au psaume 73, psaume 73, versets 2 à 3. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ensuite, voici ce que David dit dans le même psaume 73, au verset 17 et 19. « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber sur les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. » La nature juste et droite de Dieu est une garantie pour le croyant qu'il réglera toute injustice et changera le mal en bien. Alléluia. Voici ce que dit Jérémie au chapitre 19. Jérémie chapitre 19, chapitre 17, pardon, versets 7 à 11. Jérémie 17, 7 à 11. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit-elle cet homme-là. Béni veut dire préparé à prospérer, ouin pour prospérer. Que l'homme qui se confie en l'Éternel soit ouin et soit prêt à prospérer. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. L'homme qui a confiance en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux, étend ses racines dans le courant de l'onction de Dieu, alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La Bible ne dit pas que la chaleur ne viendra pas, non, la chaleur viendra. Être chrétien ne te garantit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, ne garantit pas que tu n'auras pas des difficultés. Être chrétien ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aura pas de problème dans ta vie. Tu auras à confronter des problèmes, la chaleur elle va venir, alléluia. Et son feuillage restera vert. Dieu te dit, oui, la chaleur, elle va venir, mais ton feuillage, il restera vert, alléluia. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. La sécheresse va venir, mais tu n'auras point de crainte, parce que tu ne cesseras pas de porter du fruit, alléluia. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Tu ne peux pas connaître ton cœur, ni le cœur de ton voisin. Moi, l'Éternel, voici ce que dit le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Dieu est juste et dans sa justice, il rend toujours à chacun selon ses voies et selon ses œuvres. Ça veut dire que ton comportement, ça veut dire que ta marche devant l'Éternel, chers frères et sœurs, monsieur, madame, votre marche a une récompense devant Dieu. Et Dieu regarde, et il sonde les cœurs, et il pèse les cœurs, et il va récompenser selon ce que nous méritons, alléluia. Le verset 11 dit quelque chose de très intéressant. « Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. » Telle une perdrix qui couve des œufs. Si jamais toi, cher frère, chère sœur, tu t'es retrouvé dans une situation où quelqu'un d'injuste, quelqu'un de méchant a essayé de faire une escroquerie ou à essayer de prendre un bien qui ne lui appartenait pas, à prendre des choses de toi, eh bien, cette personne, c'est comme une perdrix qui est en train de couver des œufs qu'il n'a point pondus. Et donc, c'est l'acquisition des richesses injustes, des richesses pour lesquelles on n'a pas souffert et qu'on veut dérober de quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit qu'au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Quelqu'un qui va essayer de s'approprier des richesses qui ne lui appartiennent pas. Un méchant, un injuste qui voudra s'approprier des projets, des richesses que quelqu'un d'autre a développées, pour lesquelles quelqu'un d'autre a sué. Eh ben, la Bible dit que cette personne est un insensé parce que il finira par les quitter. Alléluia. La colère de Dieu est juste et droite parce qu'elle est dirigée contre l'injustice et la corruption. Dieu aime et a compassion sur nous. Mais quand nous continuons intentionnellement à rejeter son amour et à tomber dans le péché et l'injustice, tout en prétextant sa grâce, alors la colère et la sévérité de Dieu remontent contre nous et nous tombons sous le jugement de Dieu. Et dans Jérémie chapitre 6, Dieu donne une leçon de métallurgie à son peuple. je suis minier, alors je peux parler de métallurgie. Alors Dieu donne une leçon de métallurgie à son peuple dans Jérémie au chapitre 6. Jérémie chapitre 6, verset 27 à 30 dit ceci. « Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connaisses et sondes leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. » Voici ce que dit Malachi au chapitre 3. Malachi chapitre 3, verset 2 à 3. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Qui sera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Alléluia. Nous ne pouvons apporter à l'Éternel des offrandes dans l'injustice, dans le péché et la corruption. Dieu veut nous laver de toute injustice et de toute religiosité. Nous ne pouvons pas aller à l'église et en même temps avoir de la haine contre notre voisin. Nous ne pouvons pas aller donner nos offrandes à Dieu quand nous vivons dans le péché, l'adultère et la fornication. Dieu veut que vous donniez vos offrandes tout en marchant dans la justice, dans la repentance et en aimant votre voisin, en priant et en aimant vos ennemis. Quand nous ne jugeons pas nos péchés et nous refusons de marcher dans la repentance devant Dieu, nous nous exposons à sa correction. Et Dieu, par le Saint-Esprit, va agir comme le fondeur, alléluia, comme l'orfèvre. Il devra nous faire passer par le feu pour faire remonter en surface les impuretés et les épurer. Et les enlever de nos vies. Alléluia. À ce moment, eh ben, les différents tests et épreuves deviennent nécessaires et justes dans nos vies. Comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre au chapitre 6, au chapitre 1 verset 6. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, les tests purificateurs de Dieu ne viendra que s'il le faut. Que s'il le faut, ce n'est qu'à ce moment-là que ces tests purificateurs de Dieu viennent dans nos vies. C'est après que Dieu ait pesé notre vie et nos motifs et qu'il ait trouvé des impuretés, de l'injustice et le levain du péché. Et à ce moment-là, sa justice l'appelle à nous raffiner dans son amour pour que la véracité, la vérité de notre foi qui est plus précieuse que l'or, puisse briller devant les hommes et qu'il puisse glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la véracité ou la vérité de notre foi? Eh bien, c'est ce que l'apôtre Pierre appelle l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Eh bien, c'est la manière selon laquelle nous marchons et vivons droit avec vérité devant Dieu, devant notre Seigneur. C'est la condition de notre cœur devant Dieu. Pas seulement la position de notre vie devant Dieu parce que nous croyons ou nous sommes sauvés et remplis du Saint-Esprit. Ma chère sœur, mon cher frère, monsieur, madame, Dieu veut que ta vie reflète sa justice et sa droiture. Et vous pouvez le faire en laissant le Saint-Esprit de Dieu vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, à travers votre vie. Alléluia, alléluia. Amen et amen et amen. Et nous vous remercions d'avoir visité donc notre site. Et vous pouvez donc toujours accéder à nos podcasts sur nos sites, notamment sur le site www.riverworld.podomatic.com ou alors sur nos sites Twitter, Facebook et ainsi de suite. Alors nous vous remercions. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.